On a des clones.
Rencontre avec Migoto Senshu et Albert Carrez pour Urban Rivals. Messieurs, bonjour.
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 Alors, nous sommes ici pour pouvoir parler d'un manga qui est issu d'une licence web dont vous avez fait l'adaptation donc en manga franco-belge. Alors, Migoto Senshu, bonjour. Maître, sensei.
Bonjour.
Tout d'abord, pourriez-vous, chacun à votre tour, enfin, dans le cas d'Albert, ça va être Maître Migoto Senshu assurera la traduction en quasi-simultané, partant du principe qu'Albert est espagnol. Donc ça sera absolument délicieux à entendre, comme la majorité des Espagnols, mais je doute fort que beaucoup de gens qui vont écouter cette interview puissent comprendre toutes les subtilités. Alors, Migoto Senshu et Albert, pourriez-vous tout d'abord nous parler un peu de vous et résumer brièvement votre carrière et comment vous en êtes arrivé à travailler sur le manga Urban Rivals?
Bon, il y a assez à la traduction pour Albert. Albert, por favor, puedes decir lo que has hecho en tu vida y por qué después va a trabajar en el manga Urban Rivals?
¿Por qué?
Sí, ¿cómo se ha pasado?
Lo que he hecho antes, a ver.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait avant?
Lo primero que dibujé fue un manga de Humble and Seven.
Sí, le premier manga qu'il a dessiné, c'était un manga qui s'appelait Hand Seven, c'était un manga de handball.
Y a mi primer trabajo fue manga, porque siempre había dibujado manga cuando era pequeño.
Voilà, il a toujours dessiné des mangas depuis qu'il est tout petit, mais c'est le premier manga, c'est le primero
sí,
qui a cette chance. Sí. Le premier manga qu'il a fait, c'était Hand Seven, il y a 5-6 ans.
Después he hecho varias cosas para el mercado americano.
Voilà, ensuite il a fait pas mal de choses pour le marché américain.
Sobre todo licencias de animación.
Voilà, essentiellement sur des licences de dessins animés, comme Cars.
Cars, Ben 10. Voltron. Robots.
Voilà.
D'accord. Alguna cosa para Marvel.
Des petites choses pour Marvel.
Y luego de Bande de Touche et Latin Style.
Et ensuite il a travaillé sur des bandes dessinées franco-belges, elles. D'humour, bande touche ou Zlatan, style. Le 1 et le 2 viennent de sortir.
Muchos estilos diferentes.
Voilà, il a plusieurs styles. Il a un style comics, il a un style franco-belge et un style manga.
Siempre he leído más manga et por lo tanto lo he tenido siempre en mente y con ganas de dibujar más manga.
Alors je suis pas sûr d'avoir pigé tout ce qu'il a dit, mais en gros, ce qu'il aime le par-dessus tout, c'est dessiner du manga. Enfin, il a beaucoup dessiné du manga.
Et ahora ha sido una buena oportunidad cuando me propusieron.
Et voilà, c'était une vraie opportunité pour lui quand on lui a proposé de travailler sur le manga Urban Rivals.
D'accord. Alors, Sensei Migoto Senshu, à votre tour.
Non, je vais faire une. J'ai une vie un peu longue et compliquée, mais en gros, j'ai atterri en France il y a de nombreuses années. J'ai eu un accident grave pendant un voyage avec mes parents, qui sont japonais, enfin, je crois. Et le problème, c'est que j'ai eu un grave accident de trottinette pendant ce voyage en France. Et j'ai eu une terrible amnésie. Donc, en fait, je me rappelle absolument rien. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents en ont profité pour m'abandonner. Pour une raison que j'ignore, hein, je devais être un enfant un peu turbulent sans doute. Et j'ai été recueilli par une sœur, parce que j'étais abandonné devant la cathédrale de Reims. Et la sœur qui m'a élevé regardait beaucoup d'animes. À l'époque de Goldorak, à l'époque de Candy, elle aimait beaucoup Candy. Paix à son âme, elle est morte depuis. Pas Candy, hein, la sœur. Et j'ai adoré Goldorak, j'ai adoré Captain Flame, j'ai adoré même Dragon Ball, Senseiya et tout ça. Ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est Cobra. C'était vraiment ma série, mon anime fétiche. Surtout l'épisode du Rock Ball. Enfin, bref. À la fin des fins, j'ai fait pas mal de métiers, pas mal de sports de haut niveau. J'ai été champion du monde de lancer de cochonnet en hauteur, à la verticale. C'est un sport très très difficile. Puis je me suis mis au saut dans des barriques de vin. Le saut en plongée, hein. On fait ça dans le Bordelais, et depuis je suis dans le Bordelais pour faire ce genre d'activité. Et je suis tombé par hasard sur une équipe qui s'appelle Magma, M-A-K-M-A, comme Magma mais avec un K, avec que des dingues dedans, que des dingues qui ont un humour vraiment spécial, et leur particularité c'est qu'ils ont tous un humour moins drôle, plus drôle que le mien, pardon, et du coup j'ai été adopté tout de suite. C'est ma nouvelle famille, en quelque sorte. Et je cherche désespérément ma famille japonaise. C'est pour ça que je me suis mis au manga. J'ai commencé avec des mangas il y a quelques années, je ne citerai pas tous les noms. Le plus connu du moment, c'est un shoujo que je fais avec, avec l'éditeur Akileos qui s'appelle Amour Sucré, qui est un shoujo qui marche très très bien, qui est assez connu du public. Et on travaillait depuis plusieurs années sur le webcomics, sur des décors du jeu Urban Rivals. Et on a dit à la boîte qui fait le jeu Urban Rivals, c'est trop bête, il faut faire un manga sur votre jeu, c'est vraiment le support idéal. Par contre, on ne veut pas reproduire exactement une histoire de ce qui se passe dans votre univers. On veut créer une histoire originale. Et les éditions Delcourt ont joué le jeu, ils ont trouvé ça super, et du coup, on est parti là-dessus.
Histoire à la fois tragique et émouvante, et j'ai du mal à retenir mes larmes. Oh mon Dieu, mon pauvre petit. Est-ce que... Ah, l'émotion l'emporte. Est-ce que tu peux nous parler concrètement, enfin tous les deux même... Vous pouvez nous parler justement de la création en tant que telle, de l'acte créatif, de l'idée, comme tu viens si bien de le souligner, jusqu'à la concrétisation, le manga entre tes mains, avec ses pages, avec l'histoire, toutes les personnes derrière.
El hombre quiere saber cómo se ha pasado la creación de todo, de todo. Sí. Pero, no, del mundo, hein, del manga. Yo voy a hablar un poquito de la creación de la idea y del guión y después vas a decir cómo se pasa el libro.
¿Qué proceso?
Sí, el proceso.
Donc en ce qui me concerne, ma particularité c'est que j'ai toujours aimé travailler avec mes copains. Enfin travailler, m'amuser avec mes copains. Parce que pour moi le travail de création c'est d'abord un amusement pour raconter une histoire qui d'abord nous plaît. Parce qu'il faut vraiment que ça nous plaise et qu'on joue avec ensemble pour qu'elle plaise à notre public et à nos lecteurs. Donc, et pour des raisons de rapidité, parce qu'un manga il faut aller vite, on s'est dit on va faire ça à la méthode américaine ou à la méthode mangaka, parce que finalement tout le monde travaille un petit peu de la même manière à l'heure actuelle dans les créations de séries télé américaines par exemple, travaille en pool de scénaristes. Donc ce qu'on a fait, c'est que d'un premier abord, on a été voir les éditeurs du jeu Delcourt et on leur a proposé plein d'idées à l'appel parce qu'on imaginait bien reproduire un univers qui utilisait l'univers du Marvels, mais on voulait créer, dès le départ, on voulait créer un univers dans lequel, un univers un peu futuriste, dans lequel les gens jouaient à Urban Rivals, un peu comme nous on y joue à l'heure actuelle, mais avec quelque chose de plus grandiose, pas uniquement un simple jeu de cartes en ligne ou un simple jeu de cartes de plateau, mais quelque chose de plus grandiose. Alors évidemment ça va beaucoup. Tu fais ça, c'est ça?
Non, j'ai une idée.
Évidemment ça va beaucoup plus loin que ça, mais on est arrivé avec tout un tas d'idées vraiment très très originales qu'on a présentées à Delcourt, à l'éditeur du jeu, et qui nous ont dit ok, on adore. Et donc ensuite, j'ai réuni le pôle de scénaristes, donc on est quatre, Edmond Toriol qui connaît très bien le jeu parce que c'est lui qui a fait le webcomic à l'époque, Philippe Dos Santos, Daniel Fernandez et moi-même. Et finalement, moi j'ai un peu le rôle d'animateur de cette petite équipe. Et on se retrouve régulièrement, et c'est comme ça qu'on a créé le concept et tout l'univers. On a construit une bible, on a passé 1, 2, 3 mois à construire une bible de l'univers qu'on créait, et en déterminant quels étaient nos personnages, à quoi ils allaient servir, quelles étaient leurs envies à ces personnages, mais surtout quelles étaient leurs envies affichées. Mais au fond, on a toujours une envie dans la vie, on veut toujours faire quelque chose. Mais en réalité, c'est pas de ça dont on a besoin d'autre chose. Et donc c'est... il n'y a pas un seul héros, il y en a plusieurs. Alors il y a un héros central, bien sûr, et on a voulu tourner autour de ça. Et on a voulu complexifier les choses en introduisant un deuxième univers, celui de King City, celui du jeu Urban Rivals. Et on plante plein de petites choses dans le tome 1, mais on en plante plein d'autres dans le tome 2 et dans le tome 3. Parce qu'en fait, l'univers est vraiment très très riche et on espère que les lecteurs vont piger les petits indices qu'on plante au fur et à mesure parce qu'il y a quand même plein d'interactions qu'on est en train de créer en ce moment et qu'on s'amuse vraiment à créer ensemble. Donc voilà pour l'équipe de scénaristes. Ensuite, quand on écrit l'histoire en tant que telle, on travaille en plein d'étapes d'écriture. Mais en gros, il y a deux grandes étapes. Il y a la phase de découpage. En gros, on est d'accord sur ce qu'on va raconter dans ce tome. On sait ce qu'on va raconter sur 12 tomes. On sait où on veut aller. Sur 20 tomes, même. On sait vraiment où on veut aller. On a une première trilogie, on sait comment elle doit se clôturer, on sait les enjeux pour chacun des personnages, ça c'est hyper important de le définir dès le départ, et ensuite on sait par quelle phase ils doivent passer. Donc, à partir du moment où on sait par quelle phase ils doivent passer, on sait que dans le chapitre 1, il faut qu'il y ait telle étape. Enfin, on sait créer le rythme. Ensuite, il faut créer un rythme avec des rebondissements pour que le... Et puis surtout avec toutes les révélations qui doivent arriver vraiment à la fin du tome, enfin les révélations les plus importantes, et puis surtout le cliffhanger, le truc maximum où on se dit à la fin, vivement la suite. Parce que moi, c'est ce que j'adore dans une série télé ou dans un manga, c'est quand j'arrive à la fin et que je me dis, oh génial, vivement la suite. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on bosse par découpage ensuite. L'un d'entre nous travaille sur le découpage du premier chapitre. On corrige tous par email, après on se voit, ensuite le même scénariste travaille sur le script du chapitre en question, et ainsi de suite. Le but du jeu, c'est d'aller hyper vite. Parce que le but du jeu, c'est quand même de réussir à faire 3 mangas par an. Alors, on peut imaginer que au scénario, c'est peut-être un peu plus facile de faire rapide qu'au dessin, mais on veut vraiment avoir les meilleures idées. C'est pour ça qu'on s'est mis à plusieurs. Là, en ce moment, on travaille sur le tome 2, on est sur un chapitre qui est très difficile, où on veut vraiment construire une tension dramatique, et ça va faire 3 fois qu'on le réécrit, enfin, qu'on le fait réécrire à notre camarade. Mais c'est parce qu'on est plusieurs, il aurait été tout seul, il ne serait pas rendu compte que ça ne marchait pas. Et ensuite, on a la chance, donc je vais lui laisser la parole, d'avoir Albert, qui lui bosse aussi avec comme un mangaka, avec d'autres personnes qui l'assistent. Nous, on lui transmet les scripts, à peu près un chapitre toutes les 2 semaines, et en deux semaines, il fait le chapitre complet, storyboard, à valider, dessin, à valider, ancrage tram. Puedes hablar un poquito de cómo tú trabajas?
Sí. Cuando me llegan los guiones, yo no sé la historia entera, normalmente, y por lo tanto, me voy descubriendo la historia a medida que me van pasando los guiones. Me gusta, es interesante. Y lo primero que hago es, con el guión que me pasa el técnico,
et je pense que je peux traduire, au fur et à mesure. Alors, on lui envoie le script au fur et à mesure, et lui, il connaît pas du tout l'histoire. Il a une idée de la Bible, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Donc en fait, il découvre plein de choses au fur et à mesure, et on pourrait voir ça comme un handicap, mais lui, il trouve ça super intéressant. Voilà. La suite.
Ok. Normalement, le premier que je fais, sont nos storyboards, que je peux añadir ou quitar para mejorar el ritmo de la historia.
Voilà. Ensuite, il dessine le storyboard qu'il nous envoie pour la validation. L'idée, c'est que le storyboard, il le fait hyper rapidement. Il met une demi-journée pour faire le storyboard, ce qui est hyper rapide. Et le but du jeu, c'est vraiment hyper rapide. C'est un super héros.
Menos del día, normalmente.
Hein?
Que tardo menos del día.
Voilà. Bon, en ce moment, il met un peu moins...
C'est Octopus Man.
C'est ça. Tienes otros obras. ¿Cómo se dice las manos? ¿Otras manos?
No.
¿Dónde?
No, Octopus, Spider-Man.
¿Conoces Octopus?
Donc, muchas horas.
Et l'intérêt du storyboard, c'est que nous, on peut intervenir sur le rythme. Du coup, on peut lui dire, attention, là, on casse le rythme avec ça dans le storyboard. Il faudrait faire ça comme ça plutôt pour que ça marche mieux. Mais par contre, il fait des storyboards très très light. On voit pas les expressions des personnages, on voit leurs attitudes,
oui,
et on voit...
Là, vous bossez à la japonaise.
Un storyboard, voilà. Hyper rapide.
Et 30 secondes pour situer par rapport aux gens. Donc là, vous avez peut-être 2-3 éléments qui vous disent rien. La Bible, en fait, c'est un document qui est créé à l'origine où vous avez toute l'histoire finalement qui est compilée avec tout un tas de données, etc. C'est si jamais vous avez plusieurs scénaristes effectivement qui vont se refiler le bébé, par exemple une équipe qui va faire le tome 1, le tome 2, le tome 3, ils auront un document officiel, une espèce de background dans lequel tout aura été compilé par l'équipe originale qui donnera tout un tas d'infos qui pourront utiliser au mieux pour éviter de se dire oui mais attends mais là à tel moment fais un truc c'est juste pas possible par rapport à ce qu'on a fait. Et pour reprendre par rapport à la technique effectivement qu'utilise Albert, c'est une technique typiquement manga dans le sens où à l'origine effectivement vous avez un storyboard écrit, c'est à dire avec la mention telle case il se passe ça, le personnage dit ça, le personnage se situe de telle manière, et dans ce cas là le plus simple c'est de faire des petits dessins vite fait pour indiquer ben voilà moi je le vois comme ça, etc. Le personnage est vraiment simplifié au maximum et on ne monte pas trop justement tout un tas d'éléments. Pour ceux que ça intéresse, c'est un peu le fil conducteur du manga Bakuman qui sort chez Kana, qui raconte exactement l'histoire de deux mangaka, et on voit justement tout le processus de création derrière et tout le boulot que ça implique, et à quel point bah, c'est, ouais, j'allais dire, c'est même plus un métier, c'est une passion parce que parce que beaucoup ont foutu en l'air leur santé, c'est un boulot 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, et très peu atteignent le succès, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais revenons à nos moutons.
Ahora que hablaba de Bakuman, cuando me lo leía, cada número, acababa con muchas ganas de dibujar manga. Y me salió la posibilidad con Urban Rivals.
Justement,
era quand una motivación.
Quand tu parles de Bakuman, il a vécu vraiment comme... alors je traduis à ma sauce, mais en gros il s'est vraiment reconnu dedans, ça lui a donné encore plus envie de travailler sur Urban Rivals et de la manière de travailler, en gros ça l'a inspiré sur la manière de travailler sur Urban Rivals aussi.
Ah, pour moi, Bakuman est un chef-d'œuvre parce qu'ils ont réussi à comprendre tout l'esprit shonen et à le transposer dans la réalité, tout en montrant finalement comment ça fonctionnait réellement et à quel point c'était dur, hein, c'est un monde relativement dur et qu'on a du mal à imaginer, à conceptualiser, partant du principe que là-bas les techniques de travail sont complètement différentes. Pour en avoir discuté plusieurs fois avec des éditeurs, avec des auteurs français, des dessinateurs, le processus de création japonais où l'éditeur est partie prenante dans le processus de création du scénario, en Europe vous verrez jamais ça, hein. La majorité flinguerait littéralement leur éditeur si celui-ci venait lui dire « Écoute Coco, ce sera bien que tu modifies ceci ou cela ». L'auteur, enfin le scénariste et le dessinateur sont les créateurs, je dirais les seuls possesseurs finalement, les seuls maîtres à bord de leur histoire. Au Japon, c'est vraiment un processus collectif, où tout est partie prenante et où au final, un peu comme pour les comics américains, à la fin, je dirais, c'est la maison d'édition qui touche le jackpot tout en mettant énormément en avant l'auteur, éventuellement le dessinateur s'ils sont deux, mais où vous verrez peu finalement toute l'équipe derrière qui a fait les trames, qui a bossé sur tel ou tel élément du fond, tel ou tel élément de décor, tel ou tel onomatopée, voire même qui s'est occupé exclusivement d'un personnage parce que l'auteur n'a pas le temps de s'en occuper à plein temps. Un autre exemple dans ce cas-là, c'est le créateur, le nom m'échappe maintenant, de Negima, de Lavina, qui multiplie tellement les personnages qu'on peut quasiment être sûr au bout d'un moment que certains persos sont suivis en fait par une équipe de 2-3 personnes qui s'en occupent exclusivement. Ça, quand on part du principe que c'est un chapitre qui doit sortir toutes les semaines, toutes les 2 semaines, un mec seul peut pas tout faire. C'est inhumain.
Évidemment. Donc voilà.
Sigo ?
Oui, Vanessa.
Ok. Normalmente, los storyboards, hay un problema, que los hago tan rápido que no los entienden.
Oui, il arrive que ces storyboards, ils les fassent tellement vite qu'on comprend pas ce qu'il y a dessus.
Por lo tanto, normalmente lo aprueban bastante rápido si no hay una cosa muy complicada, muy extraña. Y una vez aprobado, empiezo con el lápiz, que sí.
Voilà, une fois alors, en général, on valide quand même assez rapidement, il y a souvent assez peu de modifications à faire. Et donc, à la suite de ça, il passe au dessin.
Y en el lápiz sí que es donde normalmente tengo más correcciones, modificaciones que hacer, porque es cuando entienden muchos de los dibujos.
Voilà. Alors, question technique, au niveau du dessin, il fait toujours tout à la plume ou PC?
Pour le moment, il en est à la phase du dessin, donc il ne fait pas à la plume le dessin. Ça, c'est à l'ancrage. Par contre, l'ancrage, il fait à la plume et te le dira après. Donc la question, c'est par rapport au dessin, c'est quoi finalement
la technique qu'il utilise, est-ce qu'il est encore...
Comment travaille pour le lapis? ¿Con tu estilo o tu coupé?
Sí, básicamente. Empecé con lápiz de grafito, lápiz normal, pero cambié al azul porque ganaba tiempo. Lápiz de mina azul.
Sí, alors la plupart du temps, il dessine avec un crayon normal, sur un papier normal, donc à l'ancienne. Mm-hmm. Il lui arrive de travailler avec un papier bleu, avec un crayon bleu. L'intérêt du crayon bleu, c'est que tu peux le différencier de tout ce qui va être noir sur une feuille. Tu peux gommer au scanner, par exemple, le crayon bleu. Tu peux le gommer sans, tu sais, par effet de différenciation de couleur.
Okay.
Ah, normalmente, trabajo directamente sobre la página, pero si hay alguna viñeta con mucho fondo o con un personaje difícil, lo trabajo aparte y luego calco. Calcar, ¿entiendes?
Sí. Dans un calque, oui. Quand il y a des pages normales, il fait tout sur la même page. Mais quand il y a des cases, des vignettes qui sont particulièrement compliquées parce que les fonds sont complexes, on va travailler sur une feuille séparée qui va réintégrer ensuite dans la page.
D'accord. Et ça se nota más en el segundo número que hay más fondos.
Alors dans le tome 2, c'est ce qui se passe parce qu'on présente beaucoup plus l'univers dans lequel on est, la ville, etc. dans le tome 2, et notamment les deux premiers chapitres. On sort un peu des arènes pour voir un petit peu l'environnement futuriste dans lequel on est, et donc ça a nécessité de s'y pas travailler beaucoup sur les fonds. qui prend énormément de temps, mais ce qui l'oblige à travailler séparément.
Vale. Envío las páginas a lápiz, con los bocadillos y todo, para que puedan pasárselo a la editora de, del CUR y hagan las correcciones adecuadas. ¿Traducir esto o no?
Es esto, lo puedo traducir. Merde.
Sí,
donc,
antes de
voilà, il finit ses planches dessinées. C'est lui qui fait des bulles, qui sont magnifiques. C'est pour ça que c'est lui qui les fait. Ensuite, c'est nous qui nous occupons du lettrage. Et c'est l'étape dans laquelle il y a une correction aussi par l'éditeur. Donc, Marion, qui est notre éditeur chez Delcourt, s'occupe de, avec toute l'équipe des scénaristes, de vérifier le moindre détail. Est-ce que les expressions des personnages conviennent? Est-ce qu'il y a des éléments dans le dialogue qui ne collent pas avec ce qui se passe dans, dans l'attitude des personnages? Est-ce que tout s'enseigne vraiment bien? Donc, et c'est là qu'on envoie le plus de corrections à Albert. Mmh. Et quand les corrections sont faites, en général ça prend 3-4 jours.
Digo?
Si.
Dibujo las correcciones y cuando está aprobado todo, empiezo a entintar. Para entintar uso el estilo japonés, plumilla y tinta china. Y rotuladores para fondos o personajes más pequeños.
Ah, merde, j'ai pas écouté.
Te lo he comentado antes, tinta, la, la tinta con plumilla y rotuladores. Estilo japonés.
Ah oui, ah,
mangaka
oui.
Clásico.
Ah oui. Mais ensuite, c'est lui qui fait l'ancrage, parce qu'il n'a pas trouvé d'assistant pour le faire, de toute façon. Parce qu'il ancre de façon traditionnelle à la japonaise,
d'accord,
avec les plumes et l'encre. Il s'est même trouvé une plume japonaise. En gros, exactement comme fait le dessinateur de Bakuman. Alors après, il y a différents types de plumes, avec différents types de, d'encre. Bon, lui, il a un gros pot d'un litre d'encre de Chine. Et il lui arrive de travailler aussi avec des cartouches d'encre, enfin avec une plume spéciale avec des cartouches d'encre qui coûte très très cher. Donc il fait, dans certains cas particuliers où il doit dessiner des personnages très précis, il utilise cette technique.
Los negros, ¿entiendes? Los negros. Los bloques de negro los hago con un ordenador porque cuando escaneaba se perdía parte de este negro y tenía que pintar otra vez. Y me quito este trabajo haciendo ya todo en negro. Por lo tanto, las páginas es solo línea sobre azul.
Quand il fait, par contre, quand il y a des noirs, vraiment gros aplats de noirs, il les fait à l'ordinateur. Parce que quand il scanne l'ensemble, quand il ancre sa planche, après il la scanne. Donc le crayonné bleu, lui, on va le séparer à l'ordinateur. Par contre, les noirs, les gros aplats noirs, ils peuvent un peu s'abîmer au scan.
Ouais.
Et donc pour ne pas perdre de profondeur, ils préfèrent faire les finitions, les gros aplats à l'ordinateur, je crois. Hein,
d'accord. Una vez entintado, normalmente no hay aprobación porque ya se ha probado un lápiz, porque el lápiz lo hago bastante vale. Acabado. Lo que hago es escanear y poner las tramas, los grises. En el primer tomo lo hice yo casi todo, pero en el segundo ya he cogido un ayudante que realmente lo está haciendo de forma bastante brillante.
Donc ensuite, il n'y a pas besoin de validation sur l'ancrage, il fonce. De toute façon, on est à un tel rythme de travail que à partir du moment où le dessin qui est très précis est validé, son ancrage il est vraiment superbe. Donc pas besoin qu'on lui dise ton ancrage il est bien ou il est pas bien. Ça c'est un commentaire personnel. Et ensuite il passe directement à la trame. Sur le tome 1, c'est lui qui a fait quasiment toute la trame. Mais vu le rythme de travail, il s'est rendu compte que c'était impossible de travailler de la même manière sur le tome 2. Et il a trouvé un assistant, une assistante. Qui travaille hyper bien, qui nous fait vraiment un magnifique travail, ça fait vraiment une trame avec du volume, c'est vraiment super.
D'accord. Okay. Alors, dernière petite question, le jeu des dernières questions, ça va pas réellement quoi que concerner Albert. Actuellement, il y a eu une crise au niveau du milieu des dessinateurs, des scénaristes et autres par rapport à une modification de la loi sur les droits à la retraite. On a tenté de faire passer une loi qui ferait que vous verseriez 8% de vos revenus.
Un peu plus en tout cas.
Un peu plus en plus.
Enfin non, c'est un peu plus que maintenant en tout cas.
Voilà.
On paye déjà, cotise déjà pour la retraite. Hein.
Oui, vous cotisez déjà, mais là d'un seul, on a déclaré que...
Je crois que c'est multiplié par deux si je dis pas de bêtises.
Tout à fait, et le problème c'est qu'on se retrouve avec énormément d'auteurs, dessinateurs qui vivent déjà avec en dessous du minimum de pauvreté. Et je voulais savoir finalement si vous, de votre côté, ça vous avait impacté, ce que vous en avez pensé.
Alors, c'est presque un sujet politique et Migo Sosenchou fait pas de politique. Je peux expliquer la manière de travailler de MACMA rapidement, donc du studio avec lequel on travaille, parce que justement notre objectif à nous, c'était que les auteurs qui bossent pour le studio ne soient pas des auteurs pauvres. Donc évidemment avec l'Espagne c'est un peu différent. La chance qu'ont les auteurs espagnols qui bossent avec nous, c'est qu'ils sont bien payés par rapport aux auteurs espagnols traditionnels, parce que l'Espagne va pas bien en ce moment économiquement, un peu moins bien que la France. Donc ça se passe bien hein, pour Albert. Maintenant les règles sociales en Espagne ne sont pas les mêmes qu'en France. Pour faire simple, effectivement le statut d'auteur, à mon avis en France, pourrait être refondu intelligemment. Mais c'est un petit peu comme tout ce qu'on essaie de faire en ce moment. On essaie de tout refondre par petites touches. Mais en fait on ne refond rien du tout, on fait payer plus, tout simplement. Bon, ce qui est malheureux, c'est qu'on est dans une époque un peu de crise. C'est ce qu'on nous dit, et il y a des gens suffisamment pauvres pour en être convaincus. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, les auteurs font, dans la grande majorité partie de ces gens qui déjà sont dans des situations un peu de pauvreté, et leur demander de payer un peu plus. Et souvent même, ce qu'il faut savoir, le vrai enjeu pour l'auteur, c'est d'être reconnu dès le premier centime. Parce que le problème des auteurs de BD, c'est que pour ceux qui vivent vraiment peu de la BD, qui gagnent moins de 6000 euros par an, ce qui déjà, un auteur de BD qui fait un album peut gagner moins de 6000 euros par an, par exemple, hein, s'il n'a pas un gros succès. Et bien cet auteur-là pourra ne pas être pris en considération, pourra ne pas être considéré comme auteur aux yeux ou de la NDA ou des AGSA, ça dépend chez qui il cotise. Et en l'occurrence, tout ce qu'il pourra cotiser pour la retraite, en gros, sera cotisé à perte, alors que ça ne sera jamais inversé. Donc peu importe qu'il cotise 4, 8, 12, 25, à la fin, il n'aura rien. Donc ça, c'est déjà un vrai problème. Donc je dirais que le problème, c'est pas l'augmentation de la part de cotisation. Le problème, il est encore en amont de tout ça.
D'accord.
Alors nous, notre solution au studio, c'est de dire, on sait très bien que nous tous, on est une quarantaine d'auteurs dans le studio. Bon, disons 20 très actifs. Et notre objectif, ça a été de dire, quoi qu'il arrive, on veut que nos auteurs bossent. Si c'est des auteurs, par exemple, si c'est des dessinateurs et qu'ils n'ont pas de boulot de dessinateur sur un projet de création, on veut au moins qu'ils puissent gagner de l'argent en travaillant dans le monde de la BD. Donc ils vont bosser sur des tâches de... Ils vont faire par exemple des paysages pour des jeux, ils vont faire peut-être du lettrage, peut-être de la colo, peut-être de l'ancrage. Enfin, bref, on a beaucoup de traducteurs chez nous. Dans notre studio par exemple, on a le traducteur de Walking Dead. Donc on traduit ou on lettre beaucoup de BD aussi, qui sont Batman, Superman, toutes ces choses-là. Donc on a plein d'activités que je vais qualifier de prestations annexes, qui permettent à nos auteurs de vivre de la BD, de leur métier d'auteur, en plus de leur création pure. Ce qui permet de cotiser, de gagner suffisamment d'argent pour ne pas être qualifié de pauvre. Voilà. C'est ça l'objectif. Bon, je pense que la majorité des auteurs chez nous vivent correctement par rapport à la moyenne des auteurs. Et notre autre particularité, c'est quoi qu'il arrive à l'éditeur, c'est-à-dire que le studio soit payé ou pas, s'il y a des éditeurs qui ont des problèmes parfois, les petits éditeurs pour lesquels on bosse, qui nous payent tard, etc. Quand on est payé à 3 mois ou à 6 mois, nos auteurs sont toujours payés au mois, quoi qu'il arrive. Donc on a vraiment voulu créer un élément intermédiaire qui permette à l'auteur de ne pas être tout seul. Et de pouvoir toujours plus fort à plusieurs.
Merci pour tous ces éléments. Alors avant de se quitter, dernière chose, y a-t-il un moyen de vous suivre au quotidien? Et enfin, maintenant que le tome 1 est sorti, le tome 2, j'imagine, devrait suivre d'ici la fin de l'année.
Alors, pour suivre notre travail sur le manga Urban Revolts, c'est facile. Vous allez sur le Facebook du studio MACMA, donc MAKMA, tu vas sur Facebook, MACMA, MAKMA, et tu trouveras des informations sur comment on avance. On va essayer de mettre de plus en plus d'informations. Sinon, tu vas sur le site de Delcourt, et tu peux aussi aller sur le site du jeu Urban Revolts, qui met des actualités régulièrement sur ce qui se passe dans l'univers du jeu, mais aussi dans l'avancement du manga. Et pour ce qui est du tome 2, donc le tome 1 vient à peine de sortir, hein, puisqu'il est sorti quasiment pour Japan Expo. Le tome 2 sortira, je crois, en tout cas avant les fêtes de Noël, en novembre, grosso modo. Notre objectif, c'est d'avoir un deuxième tome en novembre. Vraiment, notre rythme de travail, c'est un tome tous les 4 mois, 3 tomes par an.
Ouais, donc votre histoire se faisant en 3 tomes, donc le premier arc, finalement, le troisième tome devrait sortir pour Japan Expo 2015.
J'espère. Après, il y a toujours une logique, oui, avec le marketing. Quel est le meilleur moment pour que les lecteurs nous trouvent ou nous voient le mieux? Mais nous, en termes de rythme, on est capable de faire effectivement l'arc avant la fin du prochain semestre, du semestre de 2015. Oh mon Dieu, 2015 bientôt. Voilà. Donc ce manga Urban Revolts, on espère vraiment que les gens vont adhérer. À la fin du premier arc, on aura encore beaucoup de choses à dire. Et surtout que les lecteurs n'hésitent pas à nous faire un retour sur ce qu'ils ont compris. Moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est savoir ce qu'on donne comme information, ce que le lecteur perçoit comme information, pour pouvoir lui répondre, en fait. C'est une interaction avec les gens aussi, hein, c'est comme une pièce de théâtre, avec un décalage, évidemment.
Okay.
Voilà.
Bah écoutez, merci à tous les deux, et puis bonne continuation, et à bientôt.
À bientôt, merci.